Bon alors, du coup, l'essentiel c'est de démonter les arguments bateaux qu'on a déjà démontés 1000 fois. Et alors du coup, il faut continuer à distribuer des tracts comme on fait d'habitude pour s'attaquer à tous les prétextes habituels. Et du coup, finalement, tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est très bien.
Moi, ce qui me préoccupe, c'est des environnements. C'est-à-dire que si on va vers quelqu'un et qu'on lui dit cet argument est faux, il va protéger cet argument tant qu'il le voit comme un argument. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de faire. Comment dire typiquement, moi, ce qui m'intéresse, c'est faire du descriptif sans faire du prescriptif. C'est-à-dire de dire on va dire l'avis d'une vache, qu'est-ce que c'est? C'est soin d'un éleveur, mais c'est aussi c'est négligence de la part de l'éleveur. Sans conclure que du coup c'est des mauvaises personnes, il faut tout de suite arrêter ça, mais juste de faire que socialement, pour participer au débat, on va dire qu'on veut que ces choses-là existent. Un exemple que j'ai par exemple, c'est que quelque chose qui est pointé du doigt par les éleveurs, c'est l'opposition entre le monde paysan et les véganes. Il y a une toute petite vignette ici où c'est un panneau que la coordination rurale a distribué à ses membres pour qu'ils développent sur la situation qui dit sauver un paysan, manger un végane. Donc cette chose-là, elle ne marche que parce que quand la coordination rurale fait appel à cette idée d'une opposition entre le monde rural et les véganes, ça passe. Alors que c'est pas. Le truc, c'est que si on dit non, c'est pas vrai, les gens en face, ils veulent pas montrer que c'est vrai, ils veulent pas. C'est-à-dire qu'il faut que socialement, dans même leur milieu à eux, ce soit considéré comme quelque chose qui n'est pas correct. Et un exemple par rapport à ça, c'est qu'on pourrait imaginer que des véganes fassent un partenariat avec des cultivateurs et que ce soit clair que les véganes soutiennent l'agriculture et les cultivateurs. Ils ne soutiennent juste pas l'élevage. Et ça permettrait de rendre ineffectif cet argument-là qui est ramené. Et du coup, c'est plus de dire aux gens ce que vous dites, c'est pas vrai, ça ne marche pas. Par contre, de poser des bases de manière à ce que quand la personne va vouloir chercher un argument, il va manquer le soubassement social pour que cet argument soit valide, ça je pense qu'on peut le faire facilement. Et après, j'avais une liste énorme, je crois que c'est là-bas, il y a toutes les choses auxquelles vous pensez qui sont des arguments qui sont ramenés pour défendre la domination animale. Ils peuvent être attaqués sans forcément dire aux gens que c'est pas vrai. Enfin, dire aux gens mais c'est pas vrai. Enfin, d'ailleurs, parce que déjà, il y a des gens qui savent que c'est pas vrai, mais qui le disent quand même. Et du coup, vous leur dites c'est pas vrai. Mais comment est-ce qu'on fait pour que les non-antispécistes reprennent nos arguments parce que simplement, ils considèrent que leur intérêt à pas dire des trucs complètement débiles est plus important. Quoi. Mais ça veut dire qu'il faut que nos arguments à nous, il faut qu'ils soient plus identifiés comme des arguments véganes. Il faut qu'ils soient identifiés comme quelque chose qui existe en quelque sorte. Et c'est ça. Enfin. C'est vraiment ce que. Moi, ça m'avait beaucoup surpris quand Yves Bonnardel avait parlé de cette idée que les gens vont à la machine à café, une fois qu'ils ont vu les vidéos de la 114, s'il y en a un qui dit oui, mais les animaux sont sensibles, l'autre il va faire non, on a vu ce qu'il y avait à la télé. Ce que c'est des bêtises, même si la personne n'est pas antispéciste. Et du coup, c'est cette idée étrange de faire que les individus deviennent nuisibles pour la suprématie humaine sans pour autant le vouloir en quelque sorte. Et juste parce que ils se rendent pas compte que c'est un projet politique, mais ils considèrent que cet argument-là, en fait, il n'y a pas de raison de l'amener. Et c'est ce qui s'est passé pour finir avec, c'est Thomas Le Petit qui parle de ça, il dit que la sensibilité, le fait que Descartes disait que les animaux n'étaient pas sensibles à ce moment, quand il a écrit ça, en fait, au moment où il a écrit, rapidement, il y a plein de gens qui ont dit qu'ils étaient contre. C'était pas des antispécistes. C'était des gens qui considéraient juste que ce qu'ils disaient, c'était pas vrai. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que nous, on peut prendre la société pour faire qu'elle nous aide à affaiblir ces arguments-là sans que ce soit par motivation antispéciste.
Et là, t'as pas la réponse. Tu fixes juste l'objectif.
Après, il faudra que je reprenne. Si je reprends les trucs dont. Comment dire. Ça, là, tu vois. Par exemple, l'artificialité du végan, le fait que la nourriture végane, c'est quelque chose qui est créé à partir de rien, et qu'en gros, il y a des gens qui, eux, aiment la bonne bouffe, et qui aiment les traditions et les choses qui sont bien faites, et il y a les végans qui acceptent de manger des graines. Ça, c'est quelque chose qui va être, il y a une scission qui va être faite de manière à ce que je serais végane si j'acceptais votre bouffe dégueulasse. Et du coup, moi, je pense que ce serait vraiment intéressant de faire que, comment est-ce qu'on fait pour que sur un plateau télé, quand quelqu'un va dire, de toute façon, les véganes, ce qu'ils bouffent, c'est loin des traditions, ça n'a rien à voir avec nous, votre soja, il est toujours importé de l'Amérique du Sud. Comment est-ce qu'on fait pour que quelqu'un qui n'est pas antispéciste se dise tout de même, en fait, ça, c'est pas vrai. Et c'est compliqué parce que ça veut dire qu'il faut que ces faits-là soient présents quand même assez fortement dans la société. Et on peut imaginer, après, c'est des réflexions qui sont complexes. Qu'est-ce que je vous avais dit d'autre? Du coup, j'ai parlé de la capacité. Quelque chose de très simple pour l'interdit alimentaire. C'est très bénéfique pour les éleveurs de nous présenter comme des personnes qui, en fait, comme les musulmans et comme les juifs, sommes des personnes qui avouent les interdits alimentaires. Juste, c'est pas pur, du coup je n'en mange pas. Ça fait que 269 lettres de libération animale, quand ils vont faire les intrusions, ça va quand même titrer des antiviandes s'introduisent dans un abattoir. En mode, ouais, on est allé à la fin de la chaîne de l'abattoir, on a empoisonné les gens parce que vraiment la viande on n'aime pas. Et en fait, tant que cette chose-là elle est mise, on vit dans une société où c'est pas bien d'interdire aux gens de manger quelque chose, les gens ils mangent ce qu'ils veulent et on nous le dit souvent. Et en fait, tant que les gens ils penseront à l'antispécisme comme un projet d'interdit alimentaire, ou qui se sentiront utiles de faire référence à ça, ils pourront esquiver la question. Alors que si jamais c'est clair que moi je le fais, typiquement, ça m'énerve quand j'en parle de vous. Il y a un peu cette idée, non, mais on n'est pas en train de parler de nourriture, on est en train de parler des individus. Et du coup, si jamais, quand on pose la question de l'abattage, c'est clair pour la personne que si elle va dire oui, de vous parler de la viande, ils disent non, mais c'est t'invente complètement en fait. C'est pas du tout moi qui le dis, t'invente complètement ce que tu dis. Ça nous permet de passer à la vraie discussion. Quel est l'objectif en fait? Quel est l'objectif de comment est-ce qu'on arrive vraiment à la vraie discussion? Comment est-ce qu'on fait sentir à la personne que ce dont elle a à se justifier, c'est pas le fait de manger de la viande, c'est pas le fait de la méduse après machin, c'est pourquoi est-ce qu'elle peut passer les intérêts fondamentaux des animaux après quoi?
Là, à mon avis, où le bas blesse, c'est que tu présentes un peu nos adversaires comme des individus rationnels. Or, tu parles très bien de l'intérêt trivial. Mm-hmm. Et moi, je pense foncièrement, de façon pessimiste, j'ai tort sûrement, que les individus sont des individus de caprice. Malheureusement, moi, je ne parle pas de la société politique, de ce qu'on peut leur faire structurellement, et que déconstruire les arguments les uns après les autres, comme nous faisons tous avec plus ou moins de fortune, ne va pas vraiment opérer ce mouvement de bascule, parce que quoi qu'ils disent, ils savent qu'ils disent faux, ils ne le savent pas, ils n'ont pas réfléchi, c'est l'intérêt trivial qui importe, c'est le caprice, et quand tu reviens dans le pelletier à quelqu'un comme mon frère, pour qui j'ai beaucoup d'estime et d'amour, à un moment donné, quand il dit si on pense réellement qu'il faut être vegan, et qu'après tu vas dans un petit truc qu'il a, un petit interview, il dit bon, en fait, la vérité, c'est que j'adore la viande, hein, j'aimerais pas m'en passer. À un moment donné, le bas blesse ici, tu vois.
Je vais faire un. Je vais juste répondre à. Ouais. Je vais laisser. C'est-à-dire qu'on ne doit pas prendre tous les individus comme ayant le même impact sur les animaux. C'est-à-dire que, effectivement, quelqu'un qui dit oui, selon la morale, je ne devrais pas manger des animaux, mais je le fais quand même, il est assez inoffensif par rapport à quelqu'un qui, lui, va véritablement aller sur les plateaux télé pour dire mais non, regardez comme c'est correct de manger des animaux. Et du coup, mon frère, il est désagréable, mais si tous les gens étaient comme mon frère, on dirait oui, si on votait les lois, il faudrait qu'elles soient comme ça, mais moi, je mange des animaux. Mais en fait, la question, c'est pas si les gens en mangent. C'est si les gens ils veulent politiquement leur donner des droits. Et mon frère, si jamais il était mis devant la question est-ce que vous voulez leur donner des droits ou pas, il devrait changer de discours s'il voulait ne pas le faire. Son discours implique qu'il va leur donner des droits.
Moi j'ai l'impression, enfin, c'est vraiment là-dessus que j'ai basé mon militantisme, et d'une façon c'est développer le mouvement antispéciste, que derrière le truc trivial de gêne la viande, il y a en fait cette affirmation que les intérêts triviaux des humains doivent primer sur les intérêts fondamentaux des animaux, car c'est la défense d'un ordre social. Le j'aime la viande, il est bidon. Ce qu'il y a derrière, et de fait il est effectivement vécu par des gens comme tels, ils aiment la viande, etc. Et que ce qu'il y a derrière, c'est la défense d'un ordre social hiérarchique. Qui pose l'humanité comme le seigneur de la terre et les animaux comme des esclaves, et que c'est vraiment ça qui joue. Et c'est pour ça aussi que c'est super important de mettre en avant cette question que toi tu dis, qui est la question de fond, c'est comment on peut défendre que les intérêts privés des animaux passent après les intérêts privés des animaux, parce que c'est ça qui fonde cet ordre social-là, et c'est ça qui est sans cesse masqué, qu'on ne peut pas mettre au clair, parce que sinon, du coup, ça détruit un peu l'opération de psychosociologique de mise en avant des intérêts humains, enfin, de la valeur, l'exceptionnelle valeur de l'humanité, parce que ça montre le processus par lequel c'est mis en place, c'est-à-dire par une sorte de. Par la domination, par la non-prise en compte des animaux et par la mépris des animaux. Et moi, j'ai l'impression un peu toute la stratégie depuis 25 ans de l'antispécisme, ça a été effectivement d'empêcher les esquives sur les questions de la viande, notamment. centre de la domination humaine. C'est le symbole fondamental de la, justement de ce mépris des autres animaux et du fait qu'on fait primer des intérêts privés. Ça a été refuser toute possibilité d'esquive en mettant sans cesse au centre la question des intérêts des animaux, en refusant de parler ou en tout cas de donner une place importante aux intérêts autres liés par exemple à la critique de la viande, des arguments écologistes, de santé humaine, carbonistes, de l'élevation spirituelle, et que sais-je encore. Et quand on se la tête pour la motion d'une pratique, parler des intérêts des animaux en priorité, ce qui ne se faisait pas avant, etc. Et ça, je trouve que c'est juste effectivement ce que tu dis, c'est un truc qu'on a fait dès le départ, parce qu'on s'est rendu compte avec la notion de contagion pour les animaux, par exemple, on s'est rendu compte que les gens faisaient tout pour éviter la partie pour tuer les humains. Et les gens qui me disaient, ah oui, moi c'est comme vous, la viande c'est un vrai poison. On ne disait pas du tout ça, il y avait un refus de ça, et donc on a mis la distorsion. Et je pense que fondamentalement, ce qui se joue, c'est ce maintien d'un ordre social, hiérarchiste, militaire. C'est là-dessus, c'est ça qu'il faut visibiliser. Il faut visibiliser le fait que la viande, c'est un symbole de domination, c'est un truc qui crée de la souffrance et des torts considérables, et qui est fait pour ça. Qui est fait parce que c'est ce qui va nous donner de l'importance en tant qu'humain à l'encontre des autres animaux. Quand il va y avoir des débats sur la viande de culture, la viande vitro et la viande mina, qui s'appelle contaminante, je pense que ce qu'il faut mettre en évidence, c'est que les gens ne veulent pas de cette viande vitro parce qu'elle n'est pas fondée sur l'exploitation animale, sur le métier des autres animaux, etc.
C'est exactement ce que dit Perico Megas. Il dit quand bien même la viande serait aussi bonne, moi je fais une viande qui a vécu dans un pré et qui est nécessité pour lui. Il le dit.
Je veux juste répondre à ce que tu disais, Yves. Moi je pense que ce serait intéressant d'avoir une discussion là-dessus justement. Est-ce qu'il y a un intérêt psychologique à dominer les animaux, ou est-ce que cet intérêt psychologique est uniquement en tant que avec cet intérêt psychologique-là, c'est la preuve qu'on va pouvoir les dominer matériellement. Avec le sexisme, je me pose aussi la question, je suis pas très clair, mais est-ce que ça me paraît une question, je pourrais pas vraiment expliquer pourquoi, mais... Ouais.
Il y a un argument simple que j'ai très peu entendu parmi les véganes, mais que les hygiénistes savent, c'est que les produits animaux sont tout simplement acidifiants pour le corps. Mm-hmm. Donc les protéines de lait sont soufrées, elles acidifient les os et génèrent l'ostéoporose. Les intestins humains sont beaucoup trop longs pour digérer les protéines carnées, ce qui fait qu'elles putréfient dans les intestins. On n'est pas fait pour les viandes. Donc voilà.
Non mais, je veux dire... 80 à 90. On en revient à ce que dit la critique au fait divers qu'on va faire de son droit de libération humaine en disant oui, mais pour la cigarette, il faut y aller petit pas par petit pas. On n'est pas dans la question de, même si on avait. Moi, je vais postuler qu'il y a des intérêts humains matériels à dominer les animaux. Peut-être que c'est pas là, donc peut-être que ce sera, se faire des colliers avec des cornes de vache, j'en sais rien. Ce qu'on coche. Enfin. Peut-être que, ça en revient à toi, ce que tu proposes, c'est aussi d'attaquer ça. C'est-à-dire que, toi, ce que tu proposes, c'est, oui, mais les gens, ils ont des intérêts matériels, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller contre ces intérêts matériels à dominer les animaux? Mais, moi, ça me paraît un travail colossal, parce que tu vois bien comment il galère avec la cigarette, par exemple. Et surtout, on va pas pour moi, c'est pas un travail contre la suprématie, puisque tu dis juste, ne dominez pas les animaux, pas en tant qu'ils font. Ils font pas partie de la catégorie petite qu'on peut dominer, mais en tant que ça va, que vous qui sommes les personnes dont on se soucie, vous allez être blessés, s'il vous plaît, ne vous faites pas de mal. Et c'est la même chose, c'est les mêmes raisons qu'on est, enfin, on pourrait arriver à ça, mais c'est les mêmes choses qu'on est aux lois contre la cruauté, qui ont été merveilleuses pour les animaux, mais qui en fait n'ont pas marqué un quelconque changement politique par rapport au jugement par rapport à la gestion des conflits, vu que c'était la logique politique était encore, on ne fait pas passer des intérêts triviaux des humains avant des intérêts fondamentaux des autres humains. Et pour moi, tant qu'on ne touche pas à cette question-là, on va forcément... Moi, c'est ce que je dis souvent, ça veut dire que si jamais on se rend compte que demain, broyer de l'œil de vache, c'est très très bon pour la santé, ça fait qu'on se remet à broyer de l'œil de vache. C'est très très risqué comme tactique, parce que t'es à la merci d'un renversement qui en fait... Enfin, la nature n'a pas décidé que c'était mauvais pour la santé de tuer des animaux. Il y aura des cas dans lesquels tu vas négliger des animaux et ce sera très très bien pour toi. Et du coup, moi je préfère compter sur cette idée de la gestion des conflits.
Mais un petit peu toujours en termes de stratégie d'action, là ce qu'on voit c'est que du fait de l'intérêt psychologique, les arguments stupides, ils arriveront toujours. C'est-à-dire que du fait de leur intérêt psychologique, ce sera toujours une possibilité d'esquive. Et donc en fait ce que tu proposes, c'est de créer un système d'invalidation sociale. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression que tu partes du principe qu'ils disparaîtront, ces arguments, et qu'on puisse les faire disparaître efficacement, mais que le principe, c'est de faire en sorte qu'ils ne puissent plus être validés socialement. Mais dans ce cas, ça veut dire qu'il faut qu'on puisse avoir une forme, pas de contrôle des institutions, mais qu'à un moment donné, notre parole antispéciste soit suffisamment forte pour qu'elle puisse créer un contrepoids de validation sociale. Mais pour avoir cette ampleur-là, comment est-ce qu'on fait déjà de base, quoi? Parce que ça veut dire qu'il faudrait un nombre, ça veut dire qu'il faudrait avoir accès à certains organes de parole. Comment on fait?
Un point très important, c'est qu'en fait, ces arguments-là, ils s'appuient sur le vide, principalement. C'est-à-dire qu'ils s'appuient sur le fait que, typiquement, quand Francis Wolff parle du sanglier, il s'appuie sur le fait que c'est pas tant que... c'est que les gens, ils ont dans leur imagination, il n'y a pas cette idée de la tutelle. Et du coup, c'est vrai, qu'est-ce que nous, on peut faire pour que... Moi, je prends ce que je prends souvent comme exemple, c'est les enfants qui ne sont pas scolarisés. Les enfants qui ne sont pas scolarisés par leurs parents, les parents ne leur disent pas l'ISA. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont leur créer un environnement où quand l'enfant va se dire « j'aimerais bien lire, j'aimerais bien avoir des images », ça va être vers des documents que les parents ont jugés comme bénéfiques pour l'enfant. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que, effectivement, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour que les gens sollicitent moins des arguments prospécistes et qu'ils aient plus des idées d'arguments antispécistes. Après, il y a des trucs qui sont simples, par exemple, pas parler d'environnement, pas parler d'interdit alimentaire. Quand on parle d'interdit alimentaire, on est en train de rapprocher cette idée-là de ce truc-là. Et après, effectivement, si on avait des organes de presse, le fait qu'il y ait Audrey Garic qui va parler de ce truc-là, de libération animale, comme une association de libération animale, c'est une grande chance. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'elle a des intérêts? Est-ce qu'elle a des exclusivités? Ça, c'est de la communication, mais je ne sais pas si j'avais
compris. Oui, non, mais clairement, mais simplement, on ne fait pas le temps en termes de rapport de pouvoir, quoi.
Mais juste les rapports de pouvoir. Comment dire? Ce qui compte, c'est pas tant d'être plus fort, en fait. Je vois ce que tu veux dire. Bah après, effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir plus de pouvoir à ce niveau-là? Oui, c'est une question.
Non.
Je considère l'objectif.
Ouais. Donc, j'imagine que dans ce qui pourrait être mis en œuvre, par exemple, tu parlais de... Là, on va prendre quelque chose de très concret, assez facile. Tu parlais de la B12, donc c'est tout ce qui, en fait, touche à la faisabilité d'être en santé avec une alimentation végétalienne. Ce qui a été fait aux États-Unis avec un corps de médecins qui a lancé en fait sa propre institution pour des recommandations plant-based, donc végétaliennes, qui fonctionne assez bien. Et là, je crois qu'en France, j'avais été contactée, il y a un projet par un collectif qui veut faire publier dans... qui veut travailler avec Lance pour produire des PNNS, je ne sais pas précisément ce que ça veut dire.
PNNS, c'est le Programme National Nutrition Santé qui décrit les prescriptions alimentaires en vigueur dans les cantines françaises ou dans les instituts.
Voilà, donc, et d'avoir un volet végétalien là-dessus qui serait certainement, dans ce cas justement, de démanteler ce que tu expliquais, de créer un environnement où en fait c'est faisable. Donc bon, là ça... C'est juste un aspect, mais ça, c'est quelque chose de faisable. Mais effectivement, comme tu disais, Adrien, nous, on n'a peut-être pas tout, on ne travaille pas dans ces domaines-là. On est confronté aux lobbies industriels qui, eux aussi, fournissent leurs propres documents en quoi c'est être en santé de manger de la viande, etc. Mais ce serait ce genre de choses, j'imagine.
Et je pense qu'on a beaucoup de questions à poser sur nos stratégies aussi, dans le sens où il y a beaucoup de choses que si on ne les faisait pas, nos arguments seraient déjà plus forts. Moi, par exemple, j'ai vu la page sur le véganisme sur le site de PEA, elle est impressionnante parce qu'elle est extrêmement informative et elle commence pas par la morale, elle finit pas par la morale. Je peux l'envoyer à quelqu'un qui va manger de la viande, qui va être en faveur de l'exploitation animale, on présente ça comme une page d'information. C'est pas une, c'est pas, enfin, ça, la personne sait que c'est du prosélytisme, mais la personne peut le lire et son intérêt psychologique à penser qu'elle est une personne merveilleuse ne va pas être blessé par rapport à ça. Et il y a beaucoup de choses dans la manière dont nous on va parler qui peut aider par rapport à ça. Parce que le truc, c'est qu'il faut que ces arguments soient présentés, mais s'ils sont présentés déjà comme des arguments véganes, enfin, si les gens l'identifient comme c'est ce que disent les végans, ils vont se sentir extrêmement légitimes de ne pas les écouter. Les éleveurs, ils font ça, ils disent, vu que c'est des végans qui disent ça, du coup, juste le fait de dire que c'est des végans qui le disent, ça suffit pour. Ça justifie le fait de ne pas l'écouter. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour que, justement, si ça vient d'une agence ou d'une gouvernementale, il y a une légitimité qui vient de ça. Mais du coup, ça, à titre d'information, et après, c'est là où c'est compliqué, cette information prosélytisme, il y a des gens qui veulent.
Mais c'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec en 2015, l'Organisme Mondial de la Santé, par rapport aux viandes cancérigènes, tout ça. Ça a pris un crédit. Quand même, enfin, qu'on n'avait pas pu atteindre jusqu'à présent.
Oui.
Mais ça reste un argument santé.
Ouais, du coup, je pense aussi que quoi qu'il arrive, quand on s'adresse à nos entre guillemets adversaires, c'est hyper important de leur faire sentir qu'on les comprend.
Oui.
Et la communication non violente, moi, ça me paraît vraiment nécessaire aussi, voilà. Et du coup, pourquoi ne pas parler de ça, justement, parler de la convivialité, de tout ça, qu'on est conscient de ça, des intérêts psychologiques d'abord, que l'autre se sente entendu, avant de passer à, le discours qui n'est pas sur la viande, etc. Mais qu'il entende bien que cette partie de vie très importante est entendue, que nous-mêmes, on l'a vécue. Que c'est amené aussi à remettre en question éventuellement, son enfance et ses parents qui faisaient comme si et ses grands-parents, etc. Et que tout ça, on en est très conscient. Mais qu'après, il y a les faits et qu'on peut informer. Voilà.
Moi, ça me surprend toujours quand tu vois sur des groupes anti-vegan, mais du coup, viens dans ma ferme et tu verras qu'ils sont assez. S'imaginer que tu ne peux avoir cette vision-là que si tu oublies ce qui se passe dans la ferme. À accepter que tu es déconnecté de ma réalité. Et effectivement, il y a vraiment cette aliénation. Plus les gens peuvent aliéner les véganes, plus c'est facile pour eux de dire que si vous pensez ça, c'est parce que vous ne comprenez pas ce que je ressens. Et moi, je trouve que c'est super important. Si on utilisait les mêmes mots, c'est ce truc du calcul de justice, en fait. C'est-à-dire que d'un côté, il y a les éleveurs qui disent « oui, mais la biodiversité, notre travail, machin », et d'un côté, il y a nous qui disent « oui, mais les animaux, comme ça, machin ». Et du coup, on parle que de ce qui est bien. Et alors que moi, je trouve que ce qui est essentiel, c'est de dire non, on sait qu'il y a deux choses à peser. Il y a le mal que ça va faire si on enlève l'élevage et le bien que ça va faire. Et il faut que les gens en fassent conscience qu'on connaît très précisément, peut-être même mieux que le mal que ça va faire. Et si on était capable de dire, si tu commences un discours sur l'abolition de l'élevage, en disant en France, il y a tant d'éleveurs, ça représente tant de trucs, ça représente. Il y a beaucoup de la gastronomie qui est basée là-dessus, machin. Mais nous, on porte un projet de société où on veut, où on pense que c'est plus important la vie des animaux et qu'on est prêt à accompagner les gens pour que ces intérêts-là ne soient pas abandonnés, mais satisfaits sans la vie des animaux. C'est très très dur en face de t'aliéner, en fait. C'est très très dur en face de dire, c'est un truc qui vient des États-Unis, c'est comme ça. Et je suis tout à fait d'accord.
Je pense aussi que les gens ont leurs besoins essentiels, puisqu'on parlait de quel est leur intérêt, quoi. C'est avant tout l'amour, c'est se sentir aimé, je pense. S'il y a autant de gens qui se trompent, en fait, en consommant, en étant à fond dans la société capitaliste, parce qu'ils essaient de se nourrir de choses d'amour, en fait, qu'ils n'arrivent pas à trouver ailleurs. Mmh. Et quand tu as une ouverture et que tu essaies de les comprendre d'abord, que tu leur donnes de l'amour par ton écoute d'abord, avant de leur balancer tout de suite ce que tu es censé savoir, tes arguments, etc., ça change tout, en
fait. Et peut-être...
C'est juste un truc très rapide. Un truc que je disais par exemple, c'est qu'imaginez ce qui se passerait si partout dans la France, il y avait des autocollants marqués « Vous êtes éleveur, vous voulez arrêter, après ce numéro-là, on vous aide. Ça fait que du coup, les gens, ils sont... Enfin, et avec vraiment, pas forcément dire que c'est légal, c'est juste organisation pour la conversion à une alimentation végétale, sans forcément dire que c'est... Ce serait plus possible que les gens disent « Oh, on nous abandonne et tout machin », on dirait « Mais non, mais t'as essayé d'appeler le numéro pour voir ce qui se passe là ?» Et du coup, ça ferait que les gens se sentiraient qu'on les... Enfin, nous, c'est un intérêt vraiment politique. Hein. Mais pour eux, ils sentiraient que si jamais ils doivent lâcher, il y a des gens qui sont là pour les aider, ils vont pas être tout seuls. Déjà qu'un travail d'éleveur, c'est un travail extrêmement solitaire. Si en plus on leur dit « t'es solitaire, en plus t'as plus de travail », c'est vrai que ces choses-là, moi je pense qu'il faut qu'on leur fasse comprendre que, un peu là, ce que disait David Olivier, qu'en tant qu'être humain, on reconnaît leurs intérêts et ils comptent pour nous. Et c'est pas qu'on est contre leurs intérêts, c'est juste que. Mais c'est vrai que c'est super important à dire.